Merci Carrie pour cette introduction. Ça me fait très plaisir, je pense que c'est le cas de le dire ici, hein, très plaisir que d'être parmi vous ce matin. Merci. L'apôtre Paul, quand il écrit à son ami Tite, lui demande de dire la chose suivante aux chrétiens de l'île de Crète. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Ces versets peuvent paraître étonnants. Les chrétiens doivent se soumettre aux autorités et ils doivent être d'une manière générale paisibles, doux, etc. Alors cela peut surprendre pour deux raisons. Tout d'abord, bon, les autorités en place, je pense qu'elles peuvent être critiquables. Et deuxième raison, il semble normal pour un chrétien d'être doux, paisible envers tous les hommes. Et ce thème de la soumission aux autorités n'est pas uniquement développé par l'apôtre Paul. Un autre apôtre, Pierre, traite aussi de ce thème dans sa première épître. Donc, et ce matin, nous allons regarder à deux textes donc de cette première épître de Pierre, qui répondent bien à la problématique de la soumission et à la question de l'humilité. Donc le premier texte sera au chapitre 2, 1 Pierre 2, et le deuxième au chapitre 3. Mais alors, avant de lire ces deux textes, je vais juste dire rapidement quel était le contexte de cette épître, parce que je pense que cela peut nous aider à avoir une meilleure perspective ou à une meilleure compréhension de ces deux textes. Donc cette épître, 1 Pierre, a été écrite comme selon l'indique par l'apôtre Pierre, au courant du 1er siècle. Dans cette épître, il s'adresse à un public assez varié. Il nous est dit qu'il y a ce qu'on appelle des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs convertis à Jésus-Christ. Il écrit aussi à des païens convertis. Donc ces destinataires ne viennent pas tous du même lieu géographique. Le premier verset de cette épître nous le montre bien. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Alors je n'ai pas eu le temps de regarder pour voir quelles sont les correspondances de ces lieux aujourd'hui, mais ce sont des lieux quand même assez variés et divers. Où en était le christianisme lors de la rédaction de cette épître? Le christianisme était minoritaire, mais il était toutefois en très grande augmentation. Et cette augmentation n'était pas vue d'un bon œil par les autorités romaines de l'époque. Et cela parce que le christianisme remettait en cause le culte de l'empereur. Néron, l'empereur romain de l'époque, commence alors à persécuter les chrétiens. Et c'est dans ce contexte de persécution que l'apôtre Pierre parle du comportement que doivent avoir les chrétiens envers les autorités et l'attitude des chrétiens entre eux. Donc le premier texte que nous allons lire, c'est 1 Pierre, chapitre 2, les versets 11 à 20. Donc 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 20. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a le droit, aimez vos frères en la foi, révérez Dieu, respectez le roi. Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. Et le deuxième texte, c'est au chapitre 3, les versets 8 à 12. Donc 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, il tend l'oreille à leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'attitude par rapport aux non-chrétiens. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. La soumission. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi dès que j'entends le mot soumission, il y a plein d'images qui me viennent en tête et elles sont quasiment toutes, même voire toutes, négatives. Quand j'entends le mot soumission, tout de suite je pense aux femmes battues, aux esclaves, des choses comme ça. La soumission, cela évoque quelqu'un d'autoritaire qui domine sur quelqu'un d'autre, et ça de manière totalement injuste. C'est un rapport de force inégal, injuste, entre deux personnes. Mais pourtant, la soumission, c'est ce qui nous est demandé par l'apôtre Pierre. Pierre nous exhorte à être soumis au roi, au souverain, au gouverneur. Et il demande par la suite que les esclaves soient soumis au maître. Alors c'est vrai, de nos jours, techniquement, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de souverain, il n'y a plus d'esclaves. Mais ce n'est pas une excuse valable pour dire qu'il ne faut plus être soumis aux autorités. En effet, ce que Pierre vise ici, ce sont les autorités. Alors le fait que ça soit une démocratie, ou alors une monarchie absolue, une monarchie constitutionnelle, une oligarchie, c'est-à-dire un pouvoir d'un petit groupe de la société, ou alors une ploutocratie, le pouvoir aux mains des riches, ou alors même une république, tout cela n'importe pas. Quelle que soit l'autorité en place, Pierre demande aux chrétiens qu'ils y soient soumis. C'est comme s'il nous demandait d'être soumis à M. Sarkozy, à M. François Fillon, ou plus localement à Joël Regnault, le maire de Plaisir, c'est ça? Je ne me trompe pas? Joël Regnault, mes recherches sont bonnes. Et je pense qu'il est possible aussi d'adapter la relation maître-esclave aux relations employeur-employé, comme Carré, tu l'as dit tout à l'heure. Pierre demande que nous soyons soumis aux autorités en place. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand Pierre écrit son épître, les autorités, elles sont loin d'être favorables au christianisme. Les autorités romaines, c'est Néron, et Néron, il est bien connu pour persécuter les chrétiens. C'est sous le règne de l'empereur Néron qu'il y a eu une très grande persécution dans les années 64-65, et des milliers de chrétiens vont être mis à mort, dont l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Se soumettre aux autorités, ce n'est pas quelque chose de facile quand même. Comment comprendre cette soumission aux autorités? En fait, ici, dans ce texte, Pierre il ne cherche pas à être moralisateur, mais il rappelle les devoirs que nous, les chrétiens, devons accomplir envers tous les hommes, même éloignés de l'Évangile. C'est sûr que Néron, il semble assez loin de l'Évangile. Mais il nous faut, nous, justement, en tant que chrétiens, que nous soyons des témoins de l'Évangile, des témoins de cette bonne nouvelle. Il nous faut même être des témoins envers les autorités. Alors, comment faire pour être des témoins de cette bonne nouvelle? Ce texte nous dit comment faire. En étant soumis aux différentes institutions, en ayant une bonne conduite. C'est en agissant avec douceur envers tous les hommes que nous témoignons de l'amour que Jésus-Christ a eu pour nous. À l'amour que Christ a eu pour nous. En effet, Christ, il nous a aimés. Et Jésus, lui aussi, a été un modèle de soumission. Il s'est soumis aux autorités locales, tout en étant soumis à son Père. Jésus, il a vécu en tant qu'homme, et c'est en tant qu'homme qu'il est mort puis ressuscité. Malgré les tentations, il est resté entièrement soumis au Père. Pour échapper à la mort, il lui aurait suffi de ne pas aller à Jérusalem. Mais dans sa soumission, il s'est plié à la volonté de son Père. Il est resté soumis à la décision humaine qui a été prise contre lui. La mort à la croix. Regardons à Jésus pour un exemple parfait de soumission. Pierre nous demande la soumission aux autorités, c'est-à-dire les autorités publiques, politiques, mais pas seulement. C'est à toute autorité instituée par les hommes, c'est ce que dit le texte. Cela veut dire que c'est aussi valable dans le monde du travail. Quand on travaille, les gens disent du mal de nous, et cela de manière injuste, ou alors quand ils s'opposent à nous, ne cherchons pas à nous défendre en rentrant dans leur système. Ne cherchons pas à avoir raison, et surtout, ne cherchons pas à nous venger. Cherchons plutôt à témoigner de l'amour de Dieu, et cela en faisant le bien. C'est ce que nous dit le verset 12 du chapitre 2. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ce n'est pas toujours facile de faire ce qui est bon, de témoigner toujours de l'amour de Dieu. Par exemple, à mon église sur Paris, j'ai une amie qui vient dans mon église depuis peut-être un an maintenant. Elle travaille comme fonctionnaire au ministère des Finances. Alors, ça fait plusieurs années qu'elle travaillait là-bas. Elle travaillait là-bas avant sa conversion. Et elle travaille encore maintenant. Et là-bas, l'ambiance est depuis plusieurs années très mauvaise. Alors, sauf quand il y avait grève ou les jours précédant la grève. Ce qu'elle me dit. À sa conversion, ce que mon ami a trouvé vraiment difficile, c'est de ne plus répondre aux différentes attaques, aux différentes manœuvres de déstabilisation. Mais par son changement d'attitude envers ses collègues, plusieurs personnes sont allées la voir et lui ont demandé pourquoi est-ce qu'elle ne répondait plus à ces critiques injustes, pourquoi est-ce qu'elle avait changé du tout au tout. Ces personnes avaient noté un changement d'attitude et ils se demandaient quelle en était la cause. Grâce à son attitude, mon ami a pu témoigner de sa foi à plusieurs de ses collègues. Alors il est vrai que pour le moment, aucun de ses collègues ne s'est donné au Seigneur. Mais nous avons la certitude que Dieu peut agir à travers les paroles que l'on dit, à travers nos actes, et parfois de manière assez inattendue, voire même plusieurs années après. Alors juste un petit exemple, il y a 2 ans, j'ai fait une campagne d'évangélisation en Espagne, à Avila. Alors Avila, je ne sais pas si vous savez où c'est à environ 100-120 km nord-ouest de Madrid. Et dans cette église à Avila, je discutais avec une dame âgée. Dame âgée qui était très impliquée dans la distribution de tracts de traités chrétiens. Alors c'était assez impressionnant à voir. Donc elle devait avoir, je pense, entre 80 et 85 ans. Une dame toute fine, toute chancelante, marchant difficilement, même avec sa canne. Vraiment impressionnant à voir. Et pourtant, elle sortait tout l'après-midi sous le soleil tapant. Et à Villa, c'était 42 degrés à l'ombre et il n'y a pas d'ombre. Donc c'est pour dire, ça tapait. Et elle marchait tout l'après-midi pour distribuer des traités. Et un jour, elle m'a raconté le récit de sa conversion. Là aussi, assez impressionnant. Un jour, une de ses connaissances lui avait donné un petit dépliant expliquant en quelques lignes le message chrétien. Alors elle avait lu, elle n'avait pas trouvé le message percutant. Cependant, comme la mise en page était jolie, elle l'avait affiché sur son frigo. C'était joli, ça faisait bien sur le frigo. Et il est resté sur ce frigo pendant à peu près 20 ans. Elle passait devant tous les jours, mais comme sans le voir, sans y faire attention. Et au bout de 20 ans, un jour, alors qu'elle alla chercher des œufs, elle revit ce dépliant. Elle le lut, et elle lut le verset qui était écrit dessus. Alors c'est un verset très connu, de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Enfin, c'est écrit en espagnol, mais c'était ce verset-là. Et à la lecture de ce verset, elle donna sa vie au Seigneur. Et c'est maintenant, depuis quelques années, une membre très active de l'église d'Avila. Par nos paroles, par nos actes, Dieu peut agir, et cela plusieurs années après. Par notre soumission, nous pouvons rendre témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Et si nous nous soumettons aux hommes, ce n'est pas parce que nous sommes inférieurs à eux, nous ne sommes pas leurs serviteurs, nous sommes les serviteurs de Dieu. Et c'est parce que nous sommes serviteurs de Dieu que nous sommes serviteurs des hommes. Alors bien sûr, il faut dire que l'évangile est plus important que ce que nous demandent les politiques ou le travail. Si on nous demande quelque chose qui est vraiment contraire à notre foi, c'est bien sûr l'évangile qu'il nous faut suivre. Nous sommes serviteurs de Dieu et non des hommes. Mais agissons toujours avec douceur, amour, envers ces autorités, quelles qu'elles soient, politiques ou au travail, envers tous ceux et envers tous ceux qui sont éloignés de l'évangile. Notre attitude doit refléter l'amour de Dieu envers tous les hommes. Le fondement de la soumission, c'est bien la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous guidera dans la manière d'appliquer cette soumission. Soyons respectueux envers tous, y compris les autorités, de leur cadre, de leur fonction. Cette soumission que nous demandent l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre est un réel moyen de témoignage. Il faut montrer que notre manière de penser n'est pas la même. Nous souhaitons ce qui est bon et convenable, mais pas uniquement pour nous, pas juste pour notre bien personnel, mais pour le bien des autres personnes. En faisant le bien et en étant soumis aux autorités, nous témoignons de l'amour que Christ a eu pour nous. Il y a dans cette soumission quelque chose qui se rapproche de l'évangélisation. Alors c'est vrai que c'est peut-être moins direct que de donner des tracts, que d'organiser un concert ou des choses comme ça, mais en étant soumis et en faisant le bien, nous témoignons de l'œuvre de Dieu et de l'impact que celle-ci a eu dans notre vie. Il y a dans la soumission un témoignage important. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Nous avons vu qu'il faut témoigner du respect aux autorités, aux supérieurs au travail, mais ce verset 17 nous dit qu'il faut aussi témoigner du respect à tout être humain, quel qu'il soit, croyant ou non, bon ou méchant. Si nous devons aimer ceux qui ne croient pas encore à Dieu, alors il nous faut nous aussi aimer ceux qui croient. Et c'est ce que nous allons voir dans notre deuxième partie. Alors je vous invite à relire le deuxième texte, donc 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Une autre traduction de ce premier verset, c'est « Ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. » Cette exhortation de Pierre, elle vise deux choses. Tout d'abord, vraiment pratique, empêcher les disputes. Si tout le monde est d'accord, pas de désaccord. C'est vrai que les désaccords peuvent exister, mais Pierre n'approuve pas ces choses. Mais cette exhortation est aussi nettement plus positive. Pierre, il souhaite que chacun ait la même pensée. Alors qu'est-ce que la même pensée ? La même pensée, c'est rechercher, avoir la même pensée, c'est rechercher la pensée du Christ. La pensée qui concerne Christ. C'est avoir les préoccupations de Jésus. Et c'est à cela que Pierre nous exhorte, avoir la même pensée. Et ce qui est nécessaire pour avoir cette même pensée, c'est l'amour fraternel. Quand un pharisien pose la question à Jésus et lui demande quel est le plus grand commandement, Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras le prochain comme toi-même. » Avoir la pensée du Christ, c'est aimer Dieu et c'est aimer son prochain. Avoir la même pensée, les mêmes sentiments, J'ai dit plutôt qu'il y avait quelque chose du témoignage dans notre attitude envers les non-chrétiens. Et je pense que cela est peut-être encore plus vrai dans les relations entre les chrétiens. L'Église doit être remplie, doit être comme débordante de compassion. Le mot compassion, littéralement, signifie souffrir avec. Quand quelqu'un souffre, c'est toute l'Église qui souffre. Cette compassion est un témoignage. Tout d'abord, un témoignage d'amour pour les personnes qui souffrent. Elles voient que l'Église n'est pas indifférente. L'Église pense à elles, prie pour elles, demande des nouvelles, et ça, c'est d'un grand réconfort. Mais cela peut aussi être un témoignage pour les non-chrétiens. Pour les proches de la personne qui souffre, qui ne connaissent pas l'Évangile, mais qui voient comment l'Église se préoccupe de la situation. Avoir la même pensée, les mêmes sentiments. Nous venons de voir dans la souffrance, mais ceci est aussi valable dans les moments de joie. Quand quelqu'un est dans la joie, c'est toute l'Église qui se réjouit. Et l'idée d'amour fraternel, de compassion, idées qui sont liées entre elles, Pierre rajoute à ces deux notions celle de l'humilité. Nous voyons ici toute la dimension pastorale de l'apôtre Pierre. Il sait quels sont les risques, quelles sont les choses qui empêchent d'avoir cet amour fraternel, cette compassion. Et l'orgueil est une de ces choses. Et l'humilité est la réponse. Pour avoir la même pensée, il faut que chacun se comprenne comme étant égal à l'autre. Si l'on se croit supérieur, alors il ne peut y avoir de compassion. Et il ne peut y avoir de réelle unité entre les chrétiens. Et cela a été montré au cours de l'histoire. Dès qu'un peuple se croit supérieur à un autre, il n'a aucune compassion pour le peuple qu'il considère comme inférieur. Nous pouvons citer par exemple l'esclavage. L'esclave n'était pas considéré comme étant un vrai être humain, d'où les mauvais traitements infligés. Pas de compassion, puisqu'il est inférieur. Mais l'amour et la compassion sont possibles s'il y a humilité. Humilité de ne pas se croire au-dessus des autres. Tous les hommes ont besoin de Jésus comme sauveur, et de ce fait, nous sommes tous égaux. L'humilité est nécessaire pour l'amour fraternel. Ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure, au contraire, bénissez. Pierre continue sur ses recommandations, sur quelle doit être l'attitude chrétienne. Et il parle ici de la vengeance. Ce texte nous rappelle que la vengeance ne doit pas être notre réponse au mal. Et je pense que c'est bon de le rappeler. Parce qu'il est sûr que notre première réaction au mal, ce n'est pas forcément de bénir, mais c'est plutôt chercher à se venger. Et ce texte nous dit qu'il ne faut pas se venger, mais qu'il nous faut bénir. Alors bénir, qu'est-ce que ça veut dire bénir ? Bénir, c'est faire du bien, dire du bien, et c'est demander à Dieu que du bien soit fait à la personne. Quand quelqu'un nous fait du mal, il nous faut bénir. Alors c'est vrai que ça apparaît plus facile en théorie qu'en pratique. Que faire concrètement quand quelqu'un nous fait du mal ? Je pense qu'il y a deux réponses possibles. Tout d'abord, en ne répondant pas au mal qui nous est fait, par le mal. Et deuxièmement, par exemple, prier pour cette personne. Demander à Dieu que cette personne comprenne le message de l'Évangile. Ce que Pierre nous dit ici sur la vengeance et sur la bénédiction, ça c'est valable envers les non-chrétiens comme ça l'est envers les chrétiens. L'attitude que l'apôtre Pierre demande aux chrétiens doit être universelle. L'amour et l'humilité sont des principes que le chrétien doit appliquer dans tous les domaines de sa vie. Quand quelqu'un nous fait du mal, n'essayons pas de nous venger, mais bénissons. Et ce texte nous donne au verset 12 une très belle affirmation. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Tout d'abord, Dieu entend nos prières, il les écoute. Et c'est là un grand réconfort pour le chrétien. Dieu écoute ce que nous lui disons. Dieu n'est pas distant, il connaît nos souffrances. En venant sur la terre, Jésus a vécu une vie de souffrance. On s'est moqué de lui, on l'a insulté, on l'a frappé et on l'a mis à mort sur la croix. Et tout cela de manière injuste. Et à l'époque, mourir sur la croix C'est une mort honteuse. Maintenant, on s'y est un peu habitué, mort à la croix, ça part habituel, mais c'est une mort honteuse. C'était une mort qui était réservée pour les brigands, pour les voleurs. Mourir sur la croix, c'est mourir d'une mort violente, une mort honteuse. Jésus, il n'a fait aucune faute. Et pourtant, il a été mis à mort. Jésus, qui est Dieu, a connu la souffrance. Et cela est d'un grand réconfort pour nous. Le Dieu en qui nous nous confions connaît nos souffrances. Et ce verset 12 nous donne une autre certitude. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ce n'est pas à nous de juger, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas juges. C'est Dieu qui est juge. Et ce juge, lui, fera justice. Or, peut-être pas dans ce monde-ci, peut-être seulement lors du retour de Christ. Cependant, la justice sera faite. Et pour nous qui croyons, nous savons que Dieu a pardonné nos fautes, Christ ayant déjà payé le prix de nos fautes sur la croix. Dans ces deux passages, l'apôtre Pierre nous indique quelle doit être l'attitude chrétienne. Le chrétien doit rendre témoignage de l'amour de Dieu, et cela par une attitude de soumission, d'humilité, par une attitude d'amour fraternel. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci car tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance, mais tu t'es fait connaître à nous par ton Fils Jésus et par ta parole. Seigneur, ce matin, nous te demandons que tu nous aides à rendre témoignage de ton amour dans notre vie quotidienne. Tu sais que ce n'est pas toujours facile d'être chrétien, mais merci car nous savons que nous pouvons compter sur toi dans les moments difficiles, car tu es à nos côtés en tout temps. Oui, Père, aide-nous toujours à nous en remettre à toi, que tu nous aides à prendre les décisions qu'il convient, afin qu'en toute chose tu sois glorifié. Nous te remettons aussi ce matin ceux qui ne t'ont pas encore accepté, que tu leur montres que c'est en toi qu'est l'espérance, que c'est en toi qu'est l'unique espoir. Et ce matin, je te remets cette église de plaisir, que tu la gardes et la bénisses. Nous te remettons l'organisation du concert des passagers, que tu permettes à des non-chrétiens d'entendre le message de ta parole à travers ce concert. Au nom de ton Fils Jésus, Amen.